Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour. Alors que la menace d'une offensive israélienne continue de peser sur le sud de Gaza, les musulmans se préparent à célébrer l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du Ramadan. En Europe, ce sera demain, mercredi. La guerre a déjà fait plus de 33 000 morts et plus d'un million de Palestiniens gazaouis réfugiés à Rafah pourraient bientôt subir un nouveau déplacement forcé. Dans la communauté musulmane de Belgique, comme dans celle de nombreux pays, le conflit au Proche-Orient a pesé sur les prêches, les dons et même les tables familiales. C'est un reportage à Bruxelles de Laure Broulard.
C'est la fin de la prière de l'après-midi à la grande mosquée de Bruxelles. Khalid, gérant de société, a enfilé une veste de costume sur son habit de prière traditionnel et discute avec un ami. Pour lui, cette année, l'Aïd sera marqué par les images des victimes des frappes israéliennes retransmises dans les médias et sur les réseaux sociaux et par le dénuement des Gazaouis.
Oui, c'est une fête qui est, on va dire, amère parce que nous, on fête la fin du Ramadan. Il y a des pauvres qui n'ont même pas de quoi manger, de quoi boire. C'est dans les esprits, hein, dans les sermons du vendredi et presque tous les jours, on en parle. Nous, on est juste là pour suivre. On n'est pas des tribunaux, nous ne sommes pas la justice. Mais ce qui se passe, je pense que ce qu'il soit musulman ou non musulman, qu'il soit chrétien ou juif, ils voient très bien ce qui se passe. Des privés qui décèdent, des enfants, des vieillards, on le condamne.
Ahmed sort à son tour de la mosquée. Pour lui aussi, le Ramadan a été triste.
Ce qu'on voit, c'est très dur pour nous, pour toute la société, pour tout le monde. C'est dur et c'est dur. Alors le Ramadan cette année, c'est pas comme tous les Ramadans. On se sent pas bien. Même à la table, on achète des trucs, mais on n'achète pas, on achète des petits trucs. On sent ce qu'elle souffre de l'autre côté, tu vois.
Beaucoup ont donc décidé de faire des dons aux Palestiniens et de leur dédier leur zakat, cette aumône de l'islam destinée aux plus démunis. Basée à Bruxelles, l'association Karama Solidarity a l'habitude de traduire ses donations en aide humanitaire. Ahmed Bouziane en est le directeur.
Donc on a remarqué une augmentation de dons au niveau de zakat parce que les gens sont vraiment donc solidaires. Et puisque nous, donc, de point de vue religieux, on a les obligations religieuses, à savoir, par exemple, à la fin du mois de Ramadan, on doit donner zakat al-fitr, une donation pour l'occasion de l'Eid, c'est la fête de la fin du Ramadan. Et par conséquent, les gens choisissent de donner cette somme d'argent à Gaza.
Depuis le 7 octobre, l'ONG a réussi à faire passer quelques camions d'aide humanitaire dans la bande de Gaza via un partenaire basé en Égypte. Mais elle a aussi mis en place un programme d'aide spécial pendant le mois du Ramadan pour tenter d'apporter un soutien supplémentaire malgré les difficultés d'accès.
Alors on a donc trouvé un partenaire à l'intérieur donc de Rafah via lequel il prépare des repas sur place. Des repas chauds avec les moyens de bord qui existent, avec les ingrédients qui sont là. Ils essayent donc de préparer le repas. On a assuré ces derniers jours pratiquement 2000 repas par jour.
De son côté, Corinne Torrekens, professeure de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, rappelle que l'identification des communautés musulmanes au conflit israélo-palestinien n'est pas nouvelle.
Il y a une identification particulièrement au conflit israélo-palestinien depuis longtemps. Donc, c'est pas quelque chose qui est véritablement nouveau. C'est un conflit qui suscite plus d'empathie, d'identification que d'autres conflits par ailleurs dans le monde musulman. Je pense à la situation au Yémen, je pense à la situation des Ouïghours en Chine, en particulier ce qui se passe à Gaza depuis longtemps suscite une émotion particulière. Donc ça, je veux dire, c'est la spécificité. Mais par ailleurs, je ne suis pas sûre que les populations musulmanes en Belgique, parce qu'il faut bien rappeler aussi leur pluralité, se distinguent franchement de d'autres segments de l'opinion publique qui sont particulièrement heurtés par la situation, par la violence de la répression israélienne sur le territoire de Gaza en particulier. C'est une cause, si on peut parler de cause, qui génère des soutiens dans des segments plus larges.
Associations de défense des droits de l'homme, groupes militants majoritairement de gauche ou syndicats font en effet partie des comités d'organisation des manifestations pour demander un cessez-le-feu à Gaza. Il y en a eu 5 à Bruxelles ces derniers mois, rassemblant chaque fois des milliers de personnes. Au niveau gouvernemental, la Belgique fait également partie des pays européens les plus fermes dans la condamnation des opérations israéliennes.
« direction la Hongrie, où notre correspondante Florence Labruyère a recueilli le témoignage rare d'un grand avocat hongrois, Daniel Karchai. Âgé de 46 ans, Daniel Karchai a cessé d'exercer le droit fin mars. Il est atteint de la maladie de Charcot, maladie neurodégénérative incurable qui entraîne une paralysie progressive de tous les muscles. Et il souhaite décider du moment de la fin de sa vie. Or, la loi hongroise ne le permet pas. Il a donc déposé un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette instance a déjà été saisie à plusieurs reprises pour des affaires de ce type, mais c'est la première fois qu'elle est appelée à se prononcer sur le cas d'un patient atteint de la maladie de Charcot, et un jugement en faveur du plaignant ferait jurisprudence dans toute l'Europe. Reportage.
Nous sommes chez Daniel Karchai, dans le 13e arrondissement de Budapest, un quartier résidentiel tout nouveau où les appartements peuvent accueillir des personnes à mobilité réduite.
Bonjour. Vous n'avez pas oublié votre français ?
Daniel Karchai est un avocat connu en Hongrie. Il est spécialisé dans les droits de l'homme. Âgé de 46 ans, il est atteint de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative qui entraîne une paralysie progressive, puis le décès du patient. Diagnostiqué il y a un an et demi, Daniel ne peut plus marcher et il a besoin d'une assistance permanente.
Essayez donc de rester assis sur une chaise sans bouger. Si vous voulez un verre d'eau, il faut qu'on vous la porte. Si vous voulez lire, il faut que quelqu'un tourne les pages. Et vous verrez comme c'est difficile et ennuyeux d'avoir à demander de l'aide pour tout.
Pour donner un sens à sa vie, Daniel Karchai a déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette cour, basée à Strasbourg, il la connaît bien. Il y a représenté des prisonniers hongrois, maltraités en détention, et aussi des députés d'opposition, dont la liberté d'expression avait été bafouée par le parti de Viktor Orban. Aujourd'hui, c'est sa requête personnelle qu'il adresse à la cour. Il souhaiterait pouvoir décider du moment de sa mort.
Le droit de mourir, c'est l'un des droits humains les plus importants, parce qu'il concerne aussi la liberté de religion, le droit à l'autodétermination, au refus de traitements inhumains.
En Hongrie, l'euthanasie et le suicide assisté sont interdits par la loi. Mais les patients qui ont une maladie incurable, telle que le cancer, peuvent demander au médecin d'arrêter le traitement. Le droit de décider de sa fin de vie existe donc pour ces malades, mais pas pour les personnes atteintes de la maladie de Charcot, comme Daniel Karchai.
C'est de la discrimination. Dans mon cas et dans celui des personnes qui souffrent de la même chose que moi, on ne peut pas mettre fin à un traitement parce qu'il n'y a pas de traitement. On s'affaiblit peu à peu et on perd de plus en plus d'autonomie. Donc, légalement, je n'ai pas le droit d'abréger mes souffrances.
Hello. Nice to meet you. Peter Stanis.
Nice to meet you.
Hello.
Daniel Karchai estime être victime d'une discrimination. C'est l'un des arguments majeurs de son raisonnement juridique. De plus, il ne peut pas non plus se rendre dans un autre pays pour y abréger ses souffrances, explique son avocat Peter Stanitz.
Selon le code pénal hongrois, si une personne aide Daniel à voyager dans un pays où le suicide assisté est légal, comme la Suisse, cette personne sera poursuivie par la justice hongroise. C'est ce qui arriverait aux parents ou aux amis de Daniel s'il l'accompagne en Suisse. Le médecin suisse pourrait aussi être poursuivi.
La justice hongroise pourrait donc inculper ce médecin suisse. Pour l'avocat de Daniel Karchai, tous ces éléments montrent que la loi sur la fin de vie a vraiment besoin d'être révisée.
La loi sur la santé a été votée en 1997, il y a plus de 25 ans. À l'époque, on ne pensait pas aux patients atteints de cette forme de sclérose. Je crois vraiment qu'il faut actualiser cette loi. Et je crois que le gouvernement sait qu'il faut le faire. Parce que les médecins, les juristes, tout le monde est d'accord là-dessus.
Le gouvernement de Viktor Orban, qui a décliné notre demande d'interview, a présenté son argumentation à la Cour de Strasbourg. Il refuse de modifier la loi. Pour Victor Kazai, un expert en droit européen qui fait partie de l'équipe juridique de Daniel Karchai, l'attitude des autorités hongroises n'est pas surprenante.
Nous avons un gouvernement conservateur qui se dit chrétien, donc c'est normal qu'ils aient un point de vue conservateur. Mais on pourrait s'attendre à un peu plus d'ouverture de leur part, car aujourd'hui la société hongroise est en faveur de règles plus libérales sur la fin de vie. La moindre des choses serait que le gouvernement ouvre le débat.
Selon cet expert, il y a des chances que la Cour européenne des droits de l'homme accepte la demande de Daniel Karchai.
La Cour européenne des droits de l'homme a jugé, en 2011, qu'un individu avait le droit de choisir le moment et la manière de mourir. Donc ce droit existe déjà dans sa jurisprudence. Nous, ce qu'on demande à la Cour, c'est de dire si ce droit s'applique aussi aux malades incurables qui souhaiteraient se suicider, mais qui n'ont pas la force physique pour le faire et dont la souffrance est intolérable. Nous allons voir ce que va dire la Cour. But we will see what the
court will say. On ne sait pas exactement quand la Cour de Strasbourg se prononcera. Elle pourrait le faire prochainement. Si elle accepte la requête de Daniel Karchai, le gouvernement hongrois devra modifier la loi. Et ce jugement fera jurisprudence pour tous les citoyens européens atteints de la maladie de Charcot.
Depuis ce reportage de Florence Labruyère, Daniel Karchai a été hospitalisé. S'il décédait avant le jugement, son frère a déclaré qu'il maintiendrait la requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, comme la loi le lui permet. En France, le projet de loi sur le droit à mourir sera présenté en Conseil des ministres demain, mercredi. Il n'est question ni d'euthanasie, ni de suicide assisté, précise l'exécutif, qui insiste sur le fait que ce texte se différencie des autres législations européennes. Les députés commenceront son examen fin mai et il pourrait s'écouler jusqu'à 2 ans avant qu'une loi voie le jour. Frédéric Lebel, c'est en tout cas un texte qui vient combler un vide.
Oui, parce que plusieurs centaines de Français décident chaque année d'aller mourir de manière volontaire ailleurs en Europe. Selon les chiffres de l'Institut de protection sociale européenne, en Belgique, un des premiers pays à avoir légalisé l'euthanasie, 101 Français ont passé la frontière en 2023 pour un voyage sans retour. Des chiffres en hausse partout sur le continent en raison du vieillissement de la population et des progrès de la médecine. Une mort sur 20 est désormais le résultat d'une euthanasie aux Pays-Bas. En Suisse, un autre pays dont on parle beaucoup quand il s'agit du droit à mourir, où il faut le repréciser, l'euthanasie est interdite. C'est le suicide assisté qui est autorisé. Une des principales associations Excite a recensé 1627 suicides assistés en 2022.
On peut dire que sur le continent européen, les législations sont très différentes les unes des autres.
Oui, on peut commencer par les pays pionnier où l'euthanasie a été permise dès 2002, la Belgique et les Pays-Bas ont depuis mis en place des évolutions notoires. En 2014, la Belgique a été le premier pays au monde à autoriser l'euthanasie sur les mineurs sans limite d'âge. Et aux Pays-Bas, elle est désormais aussi légale depuis l'an dernier pour les enfants de moins de 12 ans. D'autres pays européens ont plus récemment légalisé la fin de vie décidée par le patient et les médecins, mais pour les adultes uniquement. Le Luxembourg en 2009, l'Espagne en 2021 et le Portugal en 2023. Au Portugal, où le débat a été houleux, le président conservateur était opposé au projet de loi. L'euthanasie n'est possible que dans le cas où le suicide médicalement assisté est impossible en raison de l'incapacité physique du patient.
Le suicide assisté, justement, même s'il n'est pas nommé en tant que tel dans le projet de loi français, pourrait désormais devenir possible dans l'Hexagone comme dans d'autres pays d'Europe.
Comme en Suisse, où le patient majeur, encadré par un médecin et une association, ingère lui-même une substance mortelle obtenue par une ordonnance médicale. Même possibilité en Autriche et dans une moindre mesure en Italie, où la Cour constitutionnelle est venue donner son accord au suicide assisté lorsque la pathologie est irréversible et la souffrance intolérable.
Mais par ailleurs, Frédéric, certains pays interdisent purement et simplement euthanasie et suicide assisté.
Oui, c'est le cas de nombreux pays avec une forte tradition catholique, Irlande ou Pologne, mais aussi de pays qui sont entrés plus récemment dans l'UE, par exemple la République tchèque, la Roumanie, la Bulgarie ou encore hors Union européenne, Norvège et Royaume-Uni. Le cas du Royaume-Uni est particulièrement intéressant. L'euthanasie est considérée comme un homicide volontaire ou un meurtre est passible d'une peine de prison à vie. L'assistance au suicide est également interdite et peut valoir une peine de 14 ans d'emprisonnement. C'est dans ce contexte que le Parlement écossais, le Parlement décentralisé d'Édimbourg, veut faire entendre sa différence. Pour la troisième fois fin mars, l'Assemblée a été saisie de ce sujet. Le projet de loi autoriserait toute personne en phase terminale à demander l'aide à mourir. Ce serait une première au sein du Royaume-Uni.
À suivre donc. Merci Frédéric Lebel. En Russie, près de 20 000 personnes ont été arrêtées pour avoir exprimé des opinions défavorables à la guerre en Ukraine entre le début de l'invasion et la fin de l'an dernier. Selon l'ONG dissoute Memorial, le pays compte plus de 600 prisonniers politiques. Parmi eux, Oleg Orlov, cofondateur et dirigeant de Memorial, l'ONG Nobel de la paix. Il vient de fêter ses 70 ans en réclusion. L'occasion d'évoquer avec Anastasia Becchio cette figure historique de la défense des droits de l'homme. Au lieu de quitter le pays, comme beaucoup d'opposants depuis 2 ans, Oleg Orlov, lui, a choisi de rester.
Oui, les autorités auraient sans doute préféré le voir partir. C'est ce qu'avance une autre figure majeure de la défense des droits humains en Russie, Svetlana Ganushkina, jointe à Moscou.
Il y a quelque part en lui cette idée selon laquelle il est plus facile pour un homme honnête d'être en prison que de porter en liberté la responsabilité de ce que fait son pays. Je pense qu'il voulait qu'il émigre pour éviter ce procès et ces discours flamboyants qui resteront dans les annales judiciaires.
Pendant les audiences, en effet, s'il n'a pas beaucoup parlé, Oleg Orlov a fait, en signe de protestation, une lecture démonstrative du procès de Kafka.
Mais il a quand même pris la parole à la toute fin pour dénoncer l'étranglement de la liberté, l'entrée des troupes russes en Ukraine et la mort d'Alexei Navalny.
Nous nous souvenons de l'appel d'Alexei. N'abandonnez pas. Je voudrais ajouter, ne perdez pas courage. Ne perdez pas votre optimisme. Ceux qui ont conduit notre pays dans le gouffre où il se trouve aujourd'hui représentent le vieux, le décrépit, le dépassé. Ils n'ont aucune image de l'avenir, seulement de fausses images du passé, des mirages de la grandeur impériale.
Oleg Orlov est un militant de longue date, Anastasia.
Il s'engage dès la fin des années 70 en collant clandestinement des tracts artisanaux contre l'invasion soviétique en Afghanistan. Quelques années plus tard, il rejoint le groupe à l'origine de la création de Memorial et fait alors la connaissance d'un autre vétéran de la défense des droits de l'homme, Lev Ponomarov, aujourd'hui exilé en France.
C'est un militant des droits de l'homme irréprochable, très dur, très honnête. Il était biologiste et les gens qui viennent des sciences sont plus structurés. Si Memorial faisait des enquêtes très minutieuses et très documentées, c'est grâce à lui.
Oleg Orlov peut aussi prêter une oreille attentive aux arguments qui ne sont pas les siens, souligne Natalia Morozova, juriste à Memorial, exilée en France.
On avait des discussions sur les féminitifs assez ardentes. Sur les questions féministes aussi, il avait cette galanterie très intelligentsia de l'Union soviétique. Il se met debout quand la femme entre dans une pièce. Certains collègues féministes à Memorial lui ont expliqué que ça pose problème. Petit à petit, il a changé d'avis.
Oleg Orlov a enquêté sur les atrocités commises par la Russie lors des guerres en Tchétchénie.
Oui, au péril de sa vie, en 1995, il s'était constitué otage pour obtenir la libération des 1500 patients détenus par des terroristes tchétchènes dans l'hôpital de Budionovsk. Son engagement lui a valu de nombreuses attaques physiques, mais ça ne l'a jamais arrêté, comme le souligne Svetlana Ganushkina.
Un homme sans peur, ça n'existe pas, mais chez lui, il y a quelque chose de plus fort que la peur. C'est un homme doté d'une énorme conscience. Oleg est l'un des rares d'entre nous à se définir comme patriote russe. Ce concept étant monopolisé par les nationalistes, peu d'entre nous se définissent comme tel. Dire qu'il a discrédité l'armée n'a absolument aucun sens. Il a lui-même évacué certains de nos militaires de Tchétchénie.
Et aujourd'hui, ses collègues s'inquiètent de son état de santé qui s'est dégradé en détention. Pour avoir accès aux pièces de son dossier pour son procès en appel, Oleg Orlov est emmené chaque jour au tribunal, ce qui l'oblige à quitter le centre de détention avant l'heure du petit déjeuner pour n'y rentrer que tard dans la nuit sans avoir pris de repas chaud.
À la réalisation, David Brockway. Retrouvez Accent d'Europe et toute l'actualité européenne sur RFI.fr et sur l'appli Pure Radio. Dans quelques instants, l'info continue sur RFI et moi je vous dis à bientôt.